Alors, Georges Labica, bonjour. Alors, nous sommes ensemble pour un parcours à travers les mots, les concepts du marxisme. Ce sera donc un abécédaire forcément et volontairement subjectif, et un abécédaire nécessairement incomplet, puisque par définition, il n'y aura que 26 entrées dans notre parcours. Alors donc, on ira de A à Z en évoquant à chaque fois un mot, un concept ou une personnalité. Alors, on vous remercie de vous prêter à ce jeu radio-philosophique qu'on a imaginé un petit peu comme une promenade à vos côtés dans le dédale des ou de la pensée révolutionnaire. Alors, pour commencer, ce sera A comme anarchisme, et peut-être anarchisme pour évoquer cette autre voie du mouvement ouvrier. Et on peut commencer par peut-être une question. Est-ce qu'il y a, selon vous, l'abîme qu'évoque Lénine entre l'anarchisme et le marxisme, ou est-ce que vous avez une vision différente?
Moi, je ne crois pas justement qu'il y ait un abîme. Parce que la déclaration de Lénine, c'est une déclaration qui est faite en contexte et qui est faite dans un cadre particulier, qui est celui de la Russie. Or, en Russie, le mouvement anarchiste était très actif, très violent, montant des attentats contre le tsar. Il faut se souvenir que le frère lui-même de Lénine a été condamné et exécuté pour un attentat contre le tsar. Alors évidemment, le mouvement ouvrier dans ce pays a eu beaucoup de mal et a connu de grandes difficultés à se démarquer très fermement de ce qu'était l'anarchisme. Les gens qui vont fonder le parti bolchevique avec Lénine sont souvent des militants qui sont passés par l'anarchisme russe. Sinon, il faut prendre l'anarchisme dans un sens plus général, et d'abord reconstituer la trame historique. Bon, anarchie, c'est un terme qui a été utilisé en France par Proudhon pour la première fois, mais dont l'histoire est antérieure. Si l'on veut dire avec précisément ce que signifie anarchie, il faut penser au sens de archie, qui signifie pouvoir. Anarchie, c'est la privation du pouvoir. C'est la privation du pouvoir. Et dans la tradition qui nous occupe, c'est-à-dire la tradition politique, socialiste, l'incarnation même du pouvoir, naturellement, c'est l'État. Et donc la réflexion des anarchistes et des marxistes s'est centrée sur la question de l'État. Mais chez les anarchistes comme Bakounine, par exemple, on voit qu'aucune forme de pouvoir n'est épargnée. C'est-à-dire il y a l'État, naturellement, mais il y a aussi la religion, la famille. Et donc l'attitude anarchiste, quand elle se veut radicale, met en question la totalité des pouvoirs, toute forme de pouvoir. Alors, l'anarchisme a commencé au moment de la jeunesse de Marx et d'Engels. Et ça a été une grosse affaire, parce que il y avait en Allemagne une école de jeunes hegéliens, idéalistes, autour des frères Bauer. Et le grand homme, philosophiquement, c'était Max Stirner. Max Stirner avait écrit un ouvrage considérable qui s'appelait « L'unique et sa propriété ». Ce titre, qui sonne un peu bizarre, signifiait simplement que la considération fondamentale philosophique était celle du moi. C'est celle du moi, et que le moi était unique. Le moi était unique, et par conséquent, il devait être mis au centre de la réflexion. Alors, naturellement, au moment où le marxisme se forme, c'est-à-dire au moment où, disons, pour parler vite, où Engels et Marx inventent, mettent en place le matérialisme historique, ils rencontrent nécessairement Stirner. Et il est indispensable qu'il règle des comptes avec lui, avec l'intention même de lui régler son compte. Et lui régler son compte, ils écrivent pour ça l'idéologie allemande. Et c'est une machine de guerre, cet ouvrage, contre Stirner. Parce que Stirner est le représentant donc de l'anarchisme philosophique. L'anarchisme philosophique, c'est-à-dire très conceptuel, et dans la période, il se situe au carrefour de l'hégélianisme, notamment de l'hégélianisme de gauche, dont Marx et Engels ont découvert que ses racines sont tout simplement idéalistes, et d'autre part, la réflexion matérialiste qui va être représentée d'abord par Moses et puis ensuite par Marx et par Engels. Il faut absolument que les idées nouvelles, au moment où elles se forment, se détachent et prennent le contre-pied des idées développées par Schirner. Donc on peut considérer qu'il y a un anarchisme qui est tout d'abord pré-marxiste. Et ensuite on pourrait dire, si on veut distinguer des formes de manière claire, pédagogique, on dirait qu'on a un anarchisme qui est marxiste au sens où il existe pendant le marxisme lui-même, et puis un anarchisme post-marxiste. Et dans l'anarchisme post-marxiste, il faut ranger Lénine. Si on voit la lutte contre l'anarchisme qui est conduit pendant que Marx et Engels se consacrent à leur œuvre, c'est-à-dire postérieurement à l'idéologie allemande, c'est-à-dire au moment où, comme disait Althusser, ils ont procédé à la coupure épistémologique, ils l'ont franchi, et ils entrent dans ce que lui considérait comme les voies de la scientificité. Et à ce moment-là, la lutte contre l'anarchisme continue. Elle vise d'abord quelqu'un comme Proudhon. Proudhon est un socialiste qui est une haute figure du socialisme en France, peut-être la plus haute figure. Il est considéré comme un maître, il est vénéré. Et Marx le sait, il est beaucoup plus jeune que Proudhon. Il tient beaucoup à ce que Proudhon s'engage à ses côtés dans le cadre d'un début d'international à l'époque. Et Marx a tout d'abord une grande admiration pour Proudhon, parce que Proudhon est celui qui a fait la critique de la société pour cette époque-là, qui était la plus féroce, en particulier en s'en prenant, comme vous le savez, à la propriété. Hein, la grande formule, la propriété, c'est le vol. Bon. Et Marx, dans la Sainte Famille, dans les textes qu'il consacre à Proudhon, qu'il rédige avec Engels, ne tarit pas d'éloges. Il ne tarit pas d'éloges, il écrit deux grands papiers pour indiquer la force de Proudhon. Mais déjà, quand on lit attentivement ces papiers, on voit que Marx discerne quelques limites. Alors cette considération des limites va prendre une importance tout à fait considérable, parce que on a d'une part le fait que sur le plan proprement théorique, les deux chemins de Proudhon et de Marx se séparent, et parce que sur le plan politique, Proudhon ne veut pas s'engager aux côtés de Marx et des amis socialistes. Par exemple, il ne veut pas participer à ce qu'ils ont créé à l'époque, c'est-à-dire un comité de correspondance communiste. Et naturellement, le mot communiste fait le départ, puisque Proudhon ne se réclame pas du communisme. On peut dire que Proudhon, jusqu'aujourd'hui, c'est la figure fondatrice, la figure mère de la tradition socialiste française depuis le début, et qu'à l'intérieur du socialisme français, on a toujours eu la lutte entre ces deux courants, un courant radical, donc de type communiste, et puis un courant qui deviendra le courant social-démocrate. Alors cet engagement contre Proudhon se caractérise, c'est intéressant pour nous qui sommes français, par le fait que Marx, pour critiquer Proudhon, pour le réfuter même, se sent obligé d'écrire en français. Et c'est en français qu'il publie son livre qui s'intitule « Misère de la philosophie ». « Misère de la philosophie » est une réponse à l'ouvrage que Proudhon avait intitulé « Philosophie de la misère ». Alors je ne vais pas donner le détail de ce qui va se passer avec Proudhon. La troisième grande figure de l'anarchisme dans l'histoire du mouvement ouvrier, c'est Bakounine, le géant Bakounine, qui avait une réputation de révolutionnaire extraordinaire, puisqu'il avait réussi à s'évader des prisons du tsar, etc., etc. Et Bakounine, lui, est marxiste. Bakounine s'est réclamé du marxisme, mais d'un marxisme très, très radical. Par exemple, Bakounine prétend qu'il a lu chez Marx la destruction de l'État. Alors ça, c'est très intéressant parce que une lutte idéologique va s'engager entre les bakouninistes et les marxistes, tout simplement parce qu'au sein de la première internationale qui vient d'être créée, les bakouninistes créent une tendance qui va s'opposer à celle de Marx, qui va être dénoncée comme le dictateur de l'internationale. Et lorsque l'internationale se sépare, elle se sépare en ayant tranché idéologiquement. C'est-à-dire que pour le mouvement ouvrier, l'engagement est marxiste. Mais dans la pratique, ce sont les idées de Bakounine qui triomphent. On le voit en France, la tradition syndicaliste continuera à s'en inspirer. En Italie et en Espagne, où les bases de l'anarchisme bakouninien sont très très fortes. Voilà, alors ce qu'on pourrait dire pour conclure cette histoire-là, si tant est qu'elle est une conclusion, c'est que sur la question de fond, c'est-à-dire sur la question de l'État, les choses ne sont pas si faciles. C'est vrai que le marxisme, comme les anarchistes, veulent la fin de l'État. Seulement pour les anarchistes, pour Bakounine notamment, l'État est responsable de l'exploitation économique. Donc il faut détruire l'État immédiatement. Le but premier d'une révolution, c'est de jeter à bas l'État, sans se soucier de savoir exactement ce qu'on mettra derrière. Alors naturellement, ça, ce n'est pas l'idée de Marx. Marx voit que l'État est un produit de l'économie, l'État n'a pas toujours existé, et il veut, lui, prendre en considération le fait que durant la première période révolutionnaire, il y aura quelque chose qui ressemblera à l'État. Donc on n'en aura pas fini avec la politique, disons, bourgeoise. Et là, on entre dans une toute autre problématique, la dictature du prolétariat. Moi, j'ai montré autrefois que même Lénine hésite à un moment donné, il se trompe, il commet une erreur anarchiste quand il analyse la question du dépérissement de l'État. Jusqu'à maintenant, par conséquent, on peut dire qu'il y a une division, il y a une opposition, mais quand on regarde, par exemple, les manifestations que nous faisons en France depuis un certain nombre d'années, sur des thèmes qui sont des thèmes revendicatifs forts, on voit bien que les drapeaux noirs et les drapeaux rouges se mélangent dans les défilés, même si une vieille hostilité demeure.